Vous écoutez, on lit pour vous.
Accessibilité du malentendant, des outils et des obstacles. Un texte de Stéphane Davoine, paru le 26 mai 2025 dans Audiologie demain. Faire en sorte que la société, particulièrement ses sphères de loisirs et professionnelles, soit accessible aux personnes malentendantes, met en jeu bien plus que la seule adaptation d'aides auditives ou d'implants cochléaires. Mieux entendre est une première étape. Elle en appelle d'autres, pas toujours évidentes en dépit des lois de 2005 et 2013 portant sur l'accessibilité des établissements recevant du public et ceux de l'enseignement supérieur. Citation. Si ce cadre légal a impulsé des avancées réelles avec un déploiement progressif des aides techniques et des aménagements, une lacune importante existe pour ce qui est de l'information fournie aux patients, qu'elle concerne leurs droits ou les aménagements à leur disposition. Fin de citation, a remarqué l'audioprothésiste Jonathan Flamand. Une enquête du Centre d'information sur la surdité et l'implant cochléaire, CICIC, de 2020, a, par exemple, montré que 70 % des personnes malentendantes ne connaissaient pas la prestation de compensation du handicap, PCH, qui permet le recours à une aide humaine pour la communication. Pour les malentendants, la notion d'accessibilité est largement liée à celle de connectivité et de streaming. L'avènement progressif du protocole universel Bluetooth LE Audio, AuraCast, devrait réduire les difficultés de compatibilité en simplifiant un paysage aujourd'hui constitué de nombreux modes de communication, induction magnétique, Bluetooth, ondes radio, etc., via la technologie AuraCast. Citation. Pour l'utilisateur, cela constitue une avancée notable avec des connexions plus fiables, offrant une meilleure qualité audio, une latence et une consommation d'énergie réduite, tout en permettant la diffusion d'une source sonore vers un nombre illimité de récepteurs. Fin de citation, a salué l'audioprothésiste Cathy Anne Guyon. Sensibilisation des collectifs de travail. Autre aspect de l'accessibilité, les nombreux services et applications d'aide à la communication à même de faciliter la vie en entreprise. Parmi eux, le visiocodage en langue française parlée, complétée, et le sous-titrage automatique durant des visioconférences, ou encore le recours à un interprète de langue des signes française via son écran de smartphone. Citation. La personnalisation de ces outils est nécessaire en fonction des besoins du patient, de ses modes de communication et du type d'aide ou d'implant qu'il utilise. Fin de citation, a rappelé Cathy-Anne Guyon. Des outils qui ne bénéficient malheureusement pas d'une divulgation suffisante. Citation. Constater qu'il n'y a pas que les aides auditives et que des aménagements sont possibles avec des micros déportés ou des couplages avec l'ordinateur est souvent une découverte pour les malentendants. Fin de citation, a relaté Denise Attia. Pour cette intervenante spécialisée dans le handicap auditif et l'aménagement des environnements corporatifs, le succès de ces solutions est étroitement lié à la sensibilisation des collectifs de travail pour que tous, dans l'entreprise, soient informés des défis auxquels les malentendants font face au quotidien. Risque de burn-out. Sans cette information, les malentendants oralisés sont plus à même de souffrir de représentations erronées de la surdité, risquant de dégrader leur quotidien dans le cadre professionnel. Citation. Les sourds utilisant la parole rencontrent plus d'obstacles que les sourds signant, car la LSF marque clairement la surdité, elle exerce une fascination qui donne envie d'aller vers l'autre et souligne la nécessité d'aménager l'échange. Fin de citation, a rapporté la psychologue Christelle Carillo. Citation. Les sourds oralisants se voient parfois proposer des tâches inadaptées à leur handicap. Ils ont du mal à évaluer et à exprimer leurs difficultés, ce qui peut provoquer de la souffrance et des risques accrus de burn-out. Fin de citation. Des problématiques qui gagneraient à être mieux connues des professionnels de l'audition. C'était « Accessibilité du malentendant, des outils et des obstacles ». Un texte de Stéphane Davoine, paru le 26 mai 2025 dans Audiologie demain.
les microplastiques peuvent avoir un impact sur la santé mentale. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 22 mai 2025 dans la presse. Les aliments ultra-transformés peuvent être une source importante et souvent insoupçonnée d'exposition aux microplastiques et aux nanoplastiques, ce qui peut avoir un impact sur la santé mentale, rappelle un nouveau texte, notamment signé par un chercheur canadien. Au moment où les niveaux d'aliments ultra-transformés, de microplastiques et d'effets néfastes sur la santé mentale augmentent simultanément, disent les auteurs, il est impératif d'étudier plus avant cette association potentielle. Après tout, on est ce que l'on mange. Les aliments ultra-transformés sont connus pour contenir de fortes concentrations de microplastiques, en grande partie dues aux procédures de transformation et d'emballage, écrivent le docteur Nicolas Fabiano de l'Université d'Ottawa et ses collègues. À la lumière des récentes découvertes qui ont mis en évidence des concentrations alarmantes de microplastiques dans le cerveau humain, nous proposons que les microplastiques puissent partiellement médier les effets néfastes sur la santé mentale de l'augmentation de la consommation d'aliments ultra-transformés. Si les risques pour la santé des aliments ultra-transformés d'un côté et des microplastiques de l'autre sont de mieux en mieux connus de la population, on réalise rarement que les premiers peuvent être une source d'exposition importante aux deuxièmes. Pourtant, a cité le docteur Fabiano en exemple, si on compare des pépites de poulet à des poitrines de poulet, les pépites contiennent 30 fois plus de microplastiques par gramme. On lance un appel à l'action pour que des recherches supplémentaires soient menées sur le sujet afin de déterminer si les microplastiques jouent un rôle, car nous pensons qu'il y a des mesures à prendre si nous voyons qu'il y a des implications au-delà du niveau de l'éducation individuelle, mais aussi au niveau politique, a dit le docteur Fabiano en entrevue. Les aliments ultra-transformés sont ceux qui ont été produits industriellement et qui contiennent des ingrédients que l'on ne trouve généralement pas dans une cuisine familiale, comme des émulsifiants, des agents de conservation, des colorants et des arômes artificiels. Cette vaste catégorie comprend des produits tels que les boissons gazeuses, les nouilles instantanées et les croustilles, ainsi que des aliments moins évidents comme les yaourts aromatisés et les pains complets préparés dans le commerce. Selon les données les plus récentes dont on dispose, les aliments ultra-transformés représentent près de 45 % de l'apport énergétique quotidien des Canadiens de 20 ans et plus. Les particules de micro et de nanoplastiques proviennent de la dégradation d'articles de plastique plus gros. La taille des microplastiques va d'un micromètre, soit un millionième de mètre, à environ 5 millimètres. On mesure la taille des nanoplastiques en milliardième de mètre. En guise de comparaison, la circonférence d'un cheveu humain est d'environ 70 micromètres. Les particules de nanoplastiques sont tellement infimes qu'elles peuvent entrer dans la circulation sanguine, par exemple en franchissant la barrière intestinale, et se rendre directement aux organes. Impact sur la santé. L'impact sur la santé humaine de ces particules est encore mal compris, mais elles interfèrent possiblement avec le fonctionnement de certains organes, dont le cerveau, et avec celui du système reproducteur. Elles pourraient aussi avoir des propriétés cancérogènes, être une source de stress oxydatif, et imiter l'action de certaines hormones, ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. On sait aussi que les microplastiques peuvent causer de l'inflammation, ce qui aura comme effet d'ouvrir des barrières cellulaires qui resteraient autrement fermées, des barrières comme la barrière hémato-encéphalique, censée protéger le cerveau des indésirables. Une étude américaine publiée plus tôt cette année prévenait ainsi que le cerveau humain contient en moyenne une cuillerée de microplastiques et de nanoplastiques et qu'on ne peut pas exclure que cela ait un lien avec l'explosion des cas de démence. Cette quantité, ajoutaient les chercheurs américains, est de 3 à 5 fois plus élevée chez les individus qui ont reçu un diagnostic de démence. Pire encore, on retrouve de 7 à 30 fois plus de microplastiques et de nanoplastiques dans le cerveau que dans n'importe quel autre organe. On a constaté une hausse alarmante de 50% des concentrations de microplastiques et de nanoplastiques dans le cerveau entre 2016 et 2024, ce qui correspond à l'explosion exponentielle de la quantité de particules de plastique dans l'environnement. En ce qui concerne le système nerveux central, les microplastiques et les nanoplastiques peuvent induire un stress oxydatif susceptible de provoquer des dommages cellulaires et d'accroître la vulnérabilité aux troubles neuronaux, expliquent les auteurs. En particulier, il a été démontré que les microplastiques influencent des neurotransmetteurs qui sont couramment impliqués dans les troubles neuropsychiatriques. Une étude publiée récemment par The BMJ et citée par les auteurs prévenait que les plus grands consommateurs d'aliments ultra-transformés augmentaient de 22% leur risque de dépression, de 48% leur risque d'anxiété et de 41% leur risque de problèmes de sommeil. En revanche, disent les auteurs du nouveau texte, il a été démontré que les personnes qui adhèrent à un régime alimentaire riche en nutriments, composé principalement d'aliments non transformés, présentent un risque plus faible d'effets néfastes sur la santé mentale. Protection possible. Il est toutefois possible de se protéger, du moins partiellement, des dangers des microplastiques. Par exemple, le simple fait de délaisser l'eau embouteillée pour l'eau du robinet pourrait voir notre ingestion de microplastiques passer de 90 000 particules par année à 4 000 particules par année, disent des experts. L'eau embouteillée peut, à elle seule, représenter une exposition annuelle aux particules de microplastiques équivalente à l'exposition générée par toutes les autres sources combinées. On recommande aussi d'abandonner les contenants de plastique au profit des contenants d'acier ou de verre pour entreposer et ou réchauffer la nourriture. Certains récipients en plastique peuvent libérer jusqu'à 4,22 millions de particules de microplastiques et 2,11 milliards de particules de nanoparticules de plastique à partir d'un seul centimètre carré de surface plastique dans les 3 minutes suivant le chauffage par micro-ondes, indique le texte publié par le Dr Fabiano et ses collègues dans le journal Brain Medicine. C'était « Les microplastiques peuvent avoir un impact sur la santé mentale », un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 22 mai 2025, dans la presse.
répit pour les proches aidants s'apprête. Un texte de Diane Gendron paru le 26 mai 2025 dans La Presse. L'absence de maisons de répit à Montréal place des proches aidants dans une situation intenable, ce qui est un mauvais calcul de la part du gouvernement, selon Diane Gendron. Le ministre Lionel Carman vient d'annoncer l'ouverture de 4 nouvelles places d'hébergement de répit à Lévis, dans la circonscription de la ministre Martine Biron. Le communiqué de presse précise que 7 autres places s'ajouteront en cours d'année. Je me réjouis grandement de cette bouffée d'air dont pourront profiter les proches aidants de la région. Je suis bien placé pour savoir à quel point ce soutien est vital. Je suis une survivante d'un cancer stade 4 et proche aidante de mon conjoint qui souffre de Parkinson depuis plus de 10 ans. Je suis de service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à longueur d'année. Mon conjoint a besoin d'aide pour tous les gestes de la vie quotidienne, à tout moment du jour et parfois de la nuit. Nous vivons avec nos 2 filles, que je tente de soutenir dans leur projet, sans oublier ma mère, en CHSLD depuis son terrible AVC. S'entraider ainsi, c'est beaucoup d'amour, mais c'est aussi un fardeau d'une lourdeur difficile à concevoir quand on n'y est pas confronté. Les premières années, on fonce, on fait face à l'adversité. Mais ensuite, combien d'années pourrais-je encore tenir le coup sans pause, sans possibilité de retour à un travail gratifiant, sans vacances, sans jamais pouvoir m'arrêter? Pour tenir le coup, j'aurais besoin de pouvoir respirer un peu. Le service qui me permettrait le mieux de garder un équilibre et de ne pas y laisser ma peau est l'hébergement de répit. Or, à Montréal, il n'y en a aucun. Aucun. Pas une seule petite place en vue. Nous avions une maison Gilles-Carl, mais elle a été contrainte de fermer ses portes en avril 2023. Celle de Boucherville avait fermé 1 an plus tôt. Depuis, rien du tout. Pourtant, ce modèle répond à un besoin criant. Il permet aux aidants et aux aidés d'affronter la maladie dans la dignité. Pour le gouvernement, couper l'aide et le répit aux proches aidants est loin d'être source d'économie. Cela pousse un plus grand nombre de personnes vers les maisons des aînés. Ces hébergements coûtent infiniment plus cher à l'État. Je souhaite éviter de placer mon conjoint, mais être une aidante assignée à domicile à perpétuité n'est pas viable. Je suis à bout de souffle. Aucune personne proche aidante ne devrait jamais se sentir seule ou à risque d'épuisement, affirme Guillaume Joseph, directeur de l'organisme Appui pour les proches aidants. Pour que la solidarité ne soit pas qu'à géométrie variable, le gouvernement doit aussi créer de toute urgence des places d'hébergement de répit à Montréal. Ça presse. C'était « Du répit pour les proches aidants, ça presse », un texte de Diane Gendron paru le 26 mai 2025 dans La Presse.
Un cours sur rien pour apprendre l'essentiel, un texte d'Ève-Marie Kiefer, paru le 22 mai 2025, dans La Presse. Le gouvernement veut imposer le vouvoiement dans les écoles. Interdire les cellulaires, ça fait réagir. Certains trouvent que c'est dépassé, que ça ne changera rien. Peut-être. Mais si on veut vraiment que l'école évolue, pourquoi ne pas viser plus profond? Pourquoi ne pas donner aux élèves et aux enseignants un moment dans la journée où être suffit? Dans certains pays, il existe un cours de savoir-être. On y apprend à se respecter, à coopérer, à vivre ensemble. C'est bien. Mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Ce qu'on n'enseigne pas, c'est à ne rien faire, à être là, présent, sans stimulation, sans réponse, sans satisfaction immédiate. Aujourd'hui, on remplit tout, le cerveau, l'agenda, même les pauses deviennent des moments à optimiser. On a oublié comment attendre, comment s'ennuyer, comment simplement ne rien faire. Les enfants n'ont pas de patience. Et si on faisait une place à ça, à l'école, un cours de vide, pas de lecture, pas d'écoute de musique, pas de discussion, pas d'activité. Pas même le droit d'aller aux toilettes ou de se lever parce qu'on a oublié quelque chose. Juste être là, ensemble, en silence et au présent. Ce serait probablement le cours le plus difficile, surtout parce que ce serait frustrant. Et c'est ça qu'il faudrait apprendre à traverser, la frustration. Certes, les enfants vivent beaucoup de frustration à l'école, mais le fait que tous les vivent en un instant commun viendrait apaiser leur solitude. L'inconfort de ne rien faire est universel. Pourquoi n'y a-t-il plus de couple qui dure? Pourquoi est-ce que les choses doivent toujours changer? Parce que nous n'avons pas appris la patience et la tolérance. Le vrai problème à l'école, c'est que si tu aimes la matière, tu as de bonnes notes. Et si tu ne l'aimes pas, tu ne l'apprends pas et tu vis des difficultés. Diagnostiqué ou non, le trouble reste le même. On a du mal à s'adapter à la différence. Les rythmes, les façons d'apprendre, et même le ton d'une voix. On veut tout régler, tout satisfaire. Mais on oublie que ce sont nos différences qui font notre richesse. Se faire aimer ou aimer. Quand j'étais une jeune enseignante, je voulais être la prof qui fait aimer et qui se fait aimer. Je croyais que c'était ma meilleure chance d'amener le plus d'élèves possible à la réussite. Aujourd'hui, après plus de 20 ans, je mise sur autre chose. J'aime mes élèves. C'est parce que je les aime que je hausse le ton, que j'exige le silence et l'écoute avec fermeté. Et je me réjouis quand ils me roulent les yeux ou expriment leur mécontentement. Les enfants sont capables de tellement de choses. Donnez-leur un cours de rien et ils performeront mieux que les adultes. Les enfants ont toutes les possibilités et leur attitude est simplement leur façon de nous dire qu'ils savent qu'on les sous-estime. C'est à la dure que tous les enseignants de carrière qui ont tenu bon et n'ont pas quitté la profession après 3 à 5 ans ont acquis la patience et la tolérance nécessaires à cette profession. Ce serait si simple d'équiper nos enfants de ces outils essentiels. Je n'y vois pas de contradiction. J'y vois vraiment la pièce clé du casse-tête de l'éducation. Comme disait Paul Pichet, les enfants, c'est pas vraiment méchant. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. C'était « Un cours sur rien pour apprendre l'essentiel », un texte d'Ève-Marie Kiefer, paru le 22 mai 2025 dans la presse.
La nature pour tous, le parc de la Gatineau redéfinit l'accessibilité. Un texte commandité paru dans Le Droit. À quelques minutes d'Ottawa-Gatineau, le parc de la Gatineau fait des pas de géant en matière d'accessibilité, de conservation et de mobilisation communautaire. Grâce à la vision inclusive de la Commission de la capitale nationale, CCN, le parc est plus accueillant que jamais. Une philosophie d'inclusion. La CCN croit que la nature doit être accessible à toutes les personnes. Cette vision se concrétise à travers des programmes favorisant la mobilité active et les expériences de plein air partagées. Marche, course, patin ou vélo, avec la possibilité de louer vélos électriques et fauteuils roulants au centre des visiteurs de Chelsea et au relais plein air, tout est pensé pour faciliter les déplacements. Un accès facilité, la navette du parc. Depuis 2015, la navette gratuite du parc est devenue un pilier de durabilité. En service tous les jours, sauf le mercredi, de la mi-mai à la fin octobre, elle permet aux visiteurs de rejoindre des sites emblématiques tout en réduisant leur empreinte carbone. Elle est intégrée au réseau de transport d'Ottawa et de Gatineau et tous les autobus sont accessibles. Citation. On estime que 30 à 40 % des usagers n'auraient pas visité le parc sans la navette. Fin de citation, explique Catherine Véro, directrice du parc de la Gatineau et des terres urbaines du Québec à la CCN. Les passagers peuvent monter et descendre à leur guise tout au long de la journée, profitant d'arrêts comme le lac Pink, le domaine Mackenzie King ou le Belvédère Champlain. Les autobus sont également équipés de supports à vélo. Une liaison spéciale vers la vallée Mitch et le lac Philippe est offerte gratuitement les week-ends et jours fériés, du printemps à l'automne, en partenariat avec Transcolline. Un transport adapté est aussi disponible sur demande. Incontournable et trésor caché. Pour les premières visites, Véro recommande des classiques comme le lac Pink, le Mont King, le lac Mulvihill et le Belvédère Champlain, dont le microclimat rappelle le Midwest américain. Elle invite aussi à découvrir des sentiers moins connus, le sentier Horizon, numéro 6, depuis P7, ou le sentier des remparts, numéro 28, depuis P12, surplombant le lac Mitch. Pour une aventure plus escarpée, le sentier des loups, numéro 62, récemment restauré avec des marches en pierre, est idéal. Un accès toute l'année. La CCN planifie l'extension hivernale de la navette vers les secteurs de ski comme Confortune et le relais plein air. La location d'équipements, incluant des options accessibles, permet à tous de profiter du parc enneigé. L'objectif? Un service élargi en semaine, tout en poursuivant ses efforts pour concilier accessibilité, durabilité et viabilité économique. Un parc pour tout le monde. Que vous soyez cycliste, randonneur ou simplement curieux, une chose est sûre, le parc de la Gatineau est accessible en toute saison. C'était « La nature pour tous, le parc de la Gatineau redéfinit l'accessibilité », un texte commandité paru dans Le Droit.